On accueille aujourd'hui Célia Ezohar, qui est traductrice, journaliste et autrice, et qui a donc notamment réalisé une super traduction de 1984 aux éditions Agone, que je vous conseille, ainsi que un livre qui vient de paraître qui s'appelle La ruée minière au XXIe siècle, dans la collection Anthropocène du Seuil, et aussi un excellent petit bouquin qui s'appelle Merci de changer de métier, qui est disponible au stand des éditions de la dernière lettre à côté. Et on l'accueille aujourd'hui parce qu'elle travaille depuis un moment sur l'intelligence artificielle et qu'on avait envie de discuter de ça parce que il nous semble, pour une fois, parmi les multiples révolutions industrielles qui nous sont annoncées régulièrement médiatiquement, que ça a l'air un peu vrai cette fois et qu'on est face à voilà, une nouvelle étape dans la numérisation de nos vies, avec donc ces super puissances de calcul appelées intelligence artificielle, qui semblent appelées à bouleverser un certain nombre de secteurs de la société et à changer une nouvelle fois la manière dont Internet fonctionne et dont nos vies qui sont très liées fonctionnent. Donc ça nous semblait important de penser ça pendant ce week-end, à la fois pour essayer de pas le subir passivement. On est plusieurs à avoir eu un effet de sidération en fait au moment où ça a été commencé à être très très médiatisé avec donc le lancement de ChatGPT, d'être un peu sidéré quoi, sans mots, sans réussir à penser ce qui était en train de nous arriver. Et donc ça nous semble toujours important de pas rester dans cet état-là et d'arriver à qualifier ce qui est en train de se passer au-delà d'un sentiment diffus que c'est horrible. Et en même temps que ça va être pratique à certains endroits pour nous. Donc voilà, essayer de sortir de ça et de se demander, dans la lignée de ce qui a été raconté ce matin, ça serait quoi une posture non jugeante qui prenne en compte l'ancrage social de cette technologie-là et qui en même temps réussisse à ne pas la considérer sa domination intégrale comme inéluctable et trouver des prises dessus, des pistes de résistance. Et pour faire ça, il nous semble également important de le faire à partir d'une appréhension de sa matérialité. Donc, à nouveau, comme ça a été un peu expliqué ce matin, on va essayer de mettre un peu en application ça avec Célia. Et donc, on lui a demandé de bien vouloir nous expliquer un peu dans le détail qu'est-ce que ça nécessite en termes de matériaux, d'infrastructures techniques et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de dorénavant passer progressivement, de plus en plus, par ce qu'on appelle des intelligences artificielles pour toute la vie numérique. Voilà, donc c'est un peu avec ces intentions-là qu'on a invité Célia, et voilà, je lui laisse la parole.
Eh ben merci Mathieu. Donc pour ce premier angle, puisque le programme alléchant annonçait de comment trouver des points d'appui pour contester cette politique du fait accompli autour de l'IA, ben oui, ça on le fait ensemble. Mais effectivement, moi je propose un préalable qui est un essai de matérialisation de l'intelligence artificielle qui est aussi, à mon sens, devrait déboucher sur une réflexion sur la terminologie, sur les mots qu'on emploie, puisque pour moi, il est clair que quand on dit intelligence artificielle, on ne peut pas penser ce que c'est, et que presque c'est à dessein. De la même manière que quand on dit numérique, on dit tout autre chose que électronique, machine. Voilà, on renvoie à de l'abstrait. Et là, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on renvoie dans l'imaginaire à presque une puissance divinatoire. Il y a un côté, c'est une pitié, quoi. Moi, ce que je propose, c'est rematérialiser ça et donc en espérant que ça débouche sur, je sais pas, ça pourrait être une création collective, en tout cas, une tentative pour renommer. Qui, pour l'instant, on en discutait tout à l'heure, je disais, mais superpuissance de calcul, c'est déjà un terme plus réaliste pour désigner ce dont il s'agit. Alors, pour l'heure, une définition minimale, on peut dire que l'intelligence artificielle, ça désigne un ensemble de nouveaux produits, qui sont de nouveaux produits de l'industrie du numérique. Qui s'appelle ChatGPT, qui s'appelle Bard, qui s'appelle Bing. et que ces nouveaux produits permettent d'automatiser des activités intellectuelles et sociales qui vont de l'écriture du roman à la conversation, à la création de films, à la création de textes. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu 1984, le roman d'Orwell, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans ce roman, les romans eux-mêmes sont écrits par intelligence artificielle. Ça peut être un détail dans le texte, mais en fait, ce n'est pas du tout anodin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Julia, l'intrépide Julia dont Winston Smith, le protagoniste, tombe amoureux. Et elle travaille au département des romans. Et son boulot, c'est de faire tourner une énorme machine qu'ils appellent des kaléidoscopes, qui sont actionnés par un moteur. Et elle se fait mal parce que l'un de ces moteurs gigantesques lui est tombé dessus. Et en fait, ces machines servent à écrire les grandes lignes des romans automatiquement. Les intrigues, c'est une sorte de loto de l'intrigue, et ensuite c'est des humains qui vont peaufiner les intrigues. Donc ça ressemble en fait beaucoup à ce que font déjà les IA génératives. Bon, moi je trouve ça assez intrigant. Mais pour reprendre un petit peu à la base, moi j'ai interviewé des chercheurs ou des chercheuses en IA pour essayer de faire cette tentative de matérialisation. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on prend l'exemple le plus connu, qui est ChatGPT, quand on demande à ChatGPT d'écrire un courrier, un brouillon d'article? En fait, en résumé, je dirais que ce modèle de traitement automatique du langage, il est rendu possible par le fait de disposer, un, de la plus grande puissance de calcul informatique qu'on ait jamais eue, et deux, de coupler cette puissance de calcul à le plus grand volume de données numériques qu'on ait jamais eu. L'un fois l'autre permet, en fait, l'usage de ce système de traitement automatique du langage, puisque ce que fait ce système-là, c'est de deviner le mot qui suit. C'est-à-dire, on écrit un bout de phrase, on va deviner ce qui devrait être à la suite si on prend statistiquement ce qui est le plus probable à partir de des données, des volumes de données absolument immenses dont on l'a alimenté à la base. Ce qui, comme c'est assez connu, on en discute souvent, pose des problèmes de biais, etc., puisque l'alimentation des systèmes d'intelligence artificielle peut être très, très malsaine à l'image de cette société. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette puissance de calcul? Donc, l'intelligence artificielle telle qu'elle se développe aujourd'hui, c'est-à-dire à vitesse grand V, grâce à ces volumes de données, elle s'appuie aussi sur des cartes graphiques GPU. Et par exemple, ChatGPT, il en utilise pour son usage habituel à peu près 30 000, 29 000 cartes graphiques. J'ai parlé à un copain qui travaille dans un labo d'intelligence artificielle à Toulouse. Pour tout son labo, c'est une grande université publique, ils en ont 30. Voilà. Donc là, on est au cœur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en fait le produit d'une accumulation de richesses, de capitaux sans précédent. L'intelligence artificielle, en fait, elle est rendue possible par des décennies de néolibéralisme et de défiscalisation et de déréglementation qui ont rendu possible que les GAFAM, c'est-à-dire pratiquement les 5 entreprises les plus riches du monde, puissent disposer de moyens illimités parce que leur trésorerie l'est et que leur capitalisation l'est. Ça va ensemble. C'est important parce qu'on ne parle pas seulement de technologie, on parle de choix politiques qui ont été faits et on parle en troisième lieu d'un imaginaire aussi et d'un système de croyance. La capitalisation boursière de Alphabet, elle est liée à la croyance qu'on y met. Si cette croyance s'effrite, la capitalisation faiblit aussi. Et donc là, pour l'instant, c'est démesuré. Et donc, mettons, pour ChatGPT, on a 30 000 cartes graphiques en réseau. Mais dans chacune de ces cartes graphiques, qui sont des systèmes donc, qui ont été développés pour les jeux vidéo, pour les jeux en ligne, qui permettent de traiter énormément de données. dedans, on va avoir des dizaines de milliards de semi-conducteurs. C'est ça l'échelle. Moi, je vous donne l'échelle. Dizaines de milliards de semi-conducteurs dans une carte graphique. Par exemple, dans une carte graphique, vous allez avoir 80 milliards de transistors. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en fait, la puissance de calcul utilisée pour les modèles d'intelligence artificielle, elle est chaque année à peu près multipliée par 10. Donc ça, ça a des implications qui sont phénoménales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on a l'une des activités humaines dans cette société qui croît le plus vite, qui augmente le plus vite. Et ça, ça a des conséquences très profondes en termes de contribution au réchauffement climatique, contribution à l'accaparement des ressources, de l'eau, croissance de la chaîne de production. Et donc moi, c'est de ça dont je vais vous parler. Quelque chose qui devrait être absolument évident et qui, à cause de la manière dont notre monde est structuré et dont l'espace public est structuré, est voué à être invisibilisé. Pourquoi? Parce que l'activité des GAFAM, c'est une activité qui s'exerce sur l'espace public lui-même. C'est-à-dire qu'elle est doublement politique. Non seulement elle est politique parce qu'elle a des implications politiques qui sont extrêmement profondes pour façonner le devenir de cette planète, en fait, mais c'est aussi parce que Google ou Facebook et compagnie structurent l'espace public et donc la manière dont nous percevons les choses, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé beaucoup trop de pouvoir dans la capacité à distribuer ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est pour ça, peut-être, que, en fait, contester l'IA, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est comme contester l'industrie du numérique dans son ensemble. C'est rendu d'autant plus difficile que c'est sur un terrain qui est lui-même détenu par l'adversaire, si je puis m'exprimer ainsi. Mais donc, je parle d'une puissance de calcul considérable. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'énergie et, par exemple, en termes d'utilisation d'électricité? Ça, c'est des trucs qu'on peut trouver dans la presse récemment. On estime que... Donc, on parle bien de ces industries, donc la Alphabet, OpenAI, etc., qui développent des systèmes d'intelligence artificielle. Elles ne donnent pas de données, hein. Elles ne donnent pas de chiffres. Elles n'expliquent pas, elles, combien d'eau elles consomment, combien d'émissions carbone elles émettent. Enfin, si, mais ça, j'y reviendrai. Combien d'électricité ça prend. Les chiffres que je donne, en fait, c'est des recherches académiques, universitaires, qui ont été faites en regardant, à partir des données disponibles, ce que ça pouvait signifier en termes de consommation électrique. Donc, il a été estimé par une équipe de chercheurs que l'entraînement de ChatGPT, de GPT-3, qui est donc le précédent de ChatGPT, moins puissant, a consommé au moins 1787 MWh. C'est la consommation électrique annuelle domestique de presque 600 personnes en France. Voilà. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de ce que ça signifie, la consommation énergétique de l'IA. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette, comme je vais essayer d'illustrer. Donc, 600 personnes en France, et on estime, la même équipe estime que cet entraînement, entraîner ce système pour lui apprendre à répondre correctement aux requêtes qui lui sont posées, donc, aura émis 552 tonnes d'équivalent CO2, quoi, à peu près 123 véhicules utilisés pendant une année, qui rouleraient pendant une année. Voilà, ça, c'est des ordres de grandeur sur la mise au point, l'entraînement. Mais en fait, on n'est pas dans la phase d'usage, c'est-à-dire quand toutes ces personnes posent des questions à ChatGPT. Et là, c'est encore autre chose, c'est bien plus énergivore, puisque c'est multiplié par le nombre de personnes. Donc ChatGPT, lui, peut consommer autant que la consommation électrique quotidienne de 94 000 personnes en France. Et on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'utilisent pas ChatGPT. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT, et qu'en fait... là, je vous parle d'un seul système développé par une boîte dans un pays, hein, qui du coup est international, mais qui consomme autant d'électricité qu'une ville, quoi, qu'une petite ville. Le problème, c'est que les ChatGPT, Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que il y a des dizaines de produits concurrents qui voient le jour. Tout le monde veut faire son ChatGPT concurrent. Et puis, il y a une dimension géostratégique aussi. Il y a la Chine qui va essayer d'avoir des produits concurrents. Donc, ErnieBot, Llama, Claude Gemini, Copilot, ça, c'est des dizaines d'autres systèmes de traitement automatique du langage qui sont entraînés en même temps. On sait qu'en janvier 2024, en Chine, enfin, donc l'État chinois avait autorisé une quarantaine de modèles d'IA générative. Et qu'en plus, il y a plein de spécialisations. Il n'y a pas que le traitement automatique du langage, évidemment. Il y a la traduction, il y a l'image, il y a la vidéo. Donc, on peut faire des prompts pour avoir des films ou des clips automatiquement, etc. Et puis, il y a tous les autres secteurs d'activité qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. Donc, bah, par exemple, dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le bâtiment, dans le secteur médical, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut estimer la consommation d'énergie cumulée des IA. Enfin, c'est totalement impossible. Il n'y a pas de recherche là-dessus. Et en plus, elle augmente sans cesse. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si une seule IA générative consomme à l'usage déjà autant qu'une ville, l'ensemble des modèles qui apparaissent devraient tous ensemble bientôt consommer autant qu'un pays. Ça paraît logique. Alors, le problème, c'est que les besoins en électricité de l'intelligence artificielle, en fait, ils ne font que prolonger la croissance de la demande en électricité qui est liée au secteur du numérique en général. C'est-à-dire le fait que c'est le secteur qui est en plus forte croissance et qui lui-même a vu donc sa demande en électricité augmenter vraiment de manière vertigineuse, de manière exponentielle au cours des dernières années. Entre 2016 et 2020, la consommation électrique des GAFAM, elle a plus que doublé en 4 ans. Et ça, c'est avant qu'on ne se mette à propulser les moteurs de recherche avec de l'IA. Donc, il faut garder ça en tête. Alors, pourquoi, en fait...
Juste pour dire un mot sur ça, pour celles et ceux qui ne suivent pas les actualités de Google au quotidien, ils viennent donc d'annoncer qu'ils allaient, d'ici quelques semaines, transformer complètement la page d'accueil et donc faire disparaître, en fait, ce qui est devenu le quotidien, pour le coup, pour à peu près tout le monde depuis une vingtaine d'années, qui est donc l'idée de faire une requête et que le résultat soit une liste de sites Internet. Donc l'enjeu pour ces sites étant d'arriver le plus haut possible. Donc là, ils viennent d'annoncer que ça, je pense que la fonction va rester, mais il faudra aller la chercher quelque part dans Google, quoi. Et la fonction de base sera le fait que Google affiche un écran avec la réponse à la question. Donc par exemple, si on cherche à savoir si la piscine à côté de chez soi est ouverte, il y a 30 ans, et on avait un dépliant affiché sur le frigo, c'était marqué. Donc, il était assez rare que la piscine ferme hors des horaires prévus, quoi. Depuis une quinzaine d'années, on va demander à Google qui va renvoyer sur la page de la piscine. Et donc là, ce qui est prévu, c'est que Google répondra directement « Oui, la piscine est ouverte de telle heure à telle heure aujourd'hui. » Et donc pour permettre ça, c'est effectivement une IA qui va le faire, qui va aller puiser dans l'ensemble de l'Internet et formuler elle-même une réponse à votre question. Donc c'est avec ce basculement-là, si ça fonctionne et que ça a le même succès qu'a eu Google à l'époque, ça veut dire que pour la moindre recherche faite sur Internet, on va mobiliser tout ce que Célia est en train de décrire et non pas uniquement pour ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire demander de faire sa dissertation de français ou de rédiger son tract ou des tâches complexes, y compris les tâches simples en fait, de recherche numérique vont toutes passer à terme par ce système-là.
Alors, il y a un chercheur dont c'est vraiment le cœur de recherche, Alex De Vries. Il a calculé, il donne des estimations de ce que ça coûte en électricité, justement, une recherche type Google augmentée par l'IA. Et donc, c'est environ 3 watts-heure d'électricité, c'est-à-dire 10 fois plus qu'une simple recherche Google. Et c'est intéressant comme chiffre parce qu'en fait, ça nous donne un peu un ordre de grandeur de ce que ça signifie par rapport au fonctionnement du numérique qui consomme déjà beaucoup trop, en réalité. On a une possible multiplication par 10 de ce que ça consomme. Et donc, ça, c'est grave. Et comme je vais l'expliquer, je pense que c'est un préalable à tout questionnement sur l'éthique de l'IA. Moi, je conçois ce que je transmets aujourd'hui comme vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand on se met à essayer d'analyser, de se demander quelles seraient les possibilités d'arbitrage entre ce que l'IA apporte dans la vie quotidienne, etc. Mais pourquoi en fait cette consommation d'électricité ? D'où ça vient ce truc ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on tape une recherche. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors, le problème, il est connu pour une part, c'est celui du stockage des données et du calcul. Que ce soit le calcul, donc cette superpuissance de calcul dont je parle, ou le stockage des données, c'est souvent fait en externe, donc dans des data centers. Et en fait, les data centers sont en train de devenir de plus en plus grands et de plus en plus énergivores. Et comme le résume un patron de data center en Suisse, en fait, un data center, un centre de données, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit alimenter des serveurs qui stockent des données H24 et refroidir, évacuer les calories H24 sans interruption. Et donc, il faut leur fournir l'électricité nécessaire et en même temps refroidir l'espace chauffé. Donc, un data center doit évacuer 1 MW de chaleur pour 1 MW d'électricité reçue. Et donc, ça, sans interruption. Donc, ce qui fait que les data centers aussi, malgré les gains énergétiques, consomment beaucoup, c'est qu'en fait, leur service est vendu comme un service haut de gamme parce qu'il y a moins de 30 minutes d'interruption possible par an. C'est-à-dire, en gros, on se prémunit contre toutes sortes de pannes possibles, les pannes réseau, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une grande redondance des systèmes d'alimentation énergétique pour avoir un data center performant qui va, par exemple, être ceux de l'OpenAI. Et donc, ça veut dire être alimenté par le réseau électrique et en même temps disposer de la puissance nécessaire en batterie, dans un local batterie, et en même temps disposer de l'énergie équivalente en générateur diesel qui peuvent prendre le relais s'il y a une panne. Donc voilà, c'est tout un système de redondance comme ça qui fait qu'en fait c'est très très consommateur. Par exemple, aujourd'hui on a des data centers comme celui de Switch à côté de la Silicon Valley. Lui, il a besoin pour fonctionner d'une puissance de 850 mégawatts. 850 mégawatts, par exemple, toute l'agglomération toulousaine, j'habite à côté de Toulouse, donc il y a Airbus, il y a pas mal de centres industriels. Airbus, la puissance requise électrique pour faire fonctionner toute cette agglomération, c'est 500 mégawatts. Et là, je vous parle d'un data center qui a besoin pour consommer de 850 mégawatts. Ça vous donne une idée des monstres en fait, que c'est devenu. Et là, on parle d'une multiplication par 10 de ce genre de choses. Voilà pourquoi il y a de quoi être inquiet. Et donc, comment font les géants du net ? En gros, par exemple, les géants du cloud, qui sont Google et qui sont Amazon. Hein. Amazon, c'est l'entreprise chef du cloud. Amazon Web Services, en gros, détient la majorité des activités cloud de stockage de données Internet sur la planète. Comment ils font pour déguiser ça et pour rendre ça un minimum acceptable dans l'opinion publique ? Bon, en gros, c'est vrai que les gens ne savent pas ça. Hein. Les gens ne savent pas que leur consommation électrique a doublé en 4 ans. Mais ça se voit un peu quand même que ça augmente très, très vite. Et comment ils font ? Ils publient des rapports environnementaux dans lesquels ils expliquent qu'ils sont neutres en carbone. Et alors là, c'est génial ! Parce que ça, c'est une supercherie fantastique. C'est vraiment une escroquerie intellectuelle qui est au cœur de notre monde, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître et publier. En fait, l'IA, évidemment, réchauffe prodigieusement le climat, comme le fait l'industrie du numérique. Et comment ils font pour que ça ne se voit pas? Comment ils font pour dire qu'ils sont neutres en carbone? Parce que les GAFAM disent qu'ils sont neutres en carbone. Et que bientôt même, ils seront carbone négatifs. Ils émettront moins de ces... qu'ils auront des émissions négatives. Eh bien, par exemple, Amazon, c'est l'entreprise au monde qui achète le plus d'énergie renouvelable, d'électricité d'origine renouvelable. Mais cette électricité, elle ne sert pas à alimenter ses propres data centers. Pas forcément. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc vous imaginez, on a des grosses centrales thermiques, on a du charbon, du diesel, etc. Ça peut faire fonctionner les data centers, par exemple aux États-Unis. Et après, ils achètent de l'électricité d'origine renouvelable, mais c'est des contrats, c'est abstrait. Market-based. Ça veut dire que quelque part ailleurs sur la planète, on a acheté des terres et installé des kilomètres carrés de photovoltaïque. Donc là, on voit bien comment fonctionne la dynamique complètement additive de ce qu'on appelle la transition. C'est-à-dire qu'on n'enlève rien, on a toujours les centrales à charbon qui alimentent tout ça, mais on rajoute à ça une production d'électricité dite renouvelable. Donc on additionne en fait. Et donc, bah oui, on réchauffe très activement le climat. Ben, pourquoi je dis ça? Alors, je dis ça aussi parce que finalement, quand ces entreprises pondent des rapports environnementaux où ils disent qu'ils sont bientôt négatifs en carbone, en fait, la grande triche, elle porte surtout sur ce qu'ils déclarent. Je ne sais pas si vous avez connaissance de comment on fait les rapports environnementaux, mais en fait, il y a trois scopes. Et les premières émissions qui sont obligatoires, celles qui sont obligatoires de déclarer, c'est celles qui ont trait au fonctionnement direct de l'entreprise. Et donc, par exemple, le type d'électricité qui alimente les data centers de l'entreprise. Mais dans le domaine du numérique, ça exclut la partie de cette activité qui, en fait, émet le plus de carbone, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire la production des équipements. Les métaux, la chaîne d'approvisionnement électronique qui va servir à produire les serveurs, les terminaux, les batteries, et puis la fin de vie de tous ces milliards de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, etc. Et tout ça, ça a été calculé, c'est les trois quarts des émissions carbone. Donc la triche, elle est aussi là, et c'est assez fou. C'est d'autant plus fou que dans un data center, les serveurs qui sont là, pour des raisons d'optimisation, de gain d'efficacité, ils sont changés tous les 2-3 ans. Alors, voilà, il faut les reproduire à chaque fois, mais ça, c'est pas compté. Ça compte pas du tout. Donc évidemment, il n'y a pas de problème. Y a ça qui fait que oui, cette activité réchauffe très activement le climat. Et la deuxième chose, c'est que le photovoltaïque, l'éolien, tous les chantiers qu'il faut mettre en œuvre pour créer cet approvisionnement en électricité dite renouvelable, ça n'est pas non plus compté. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas une comptabilité qui établirait qu'il faut construire toutes ces éoliennes, qu'il faut faire des grands travaux, mener des chantiers, etc. Donc, c'est largement dissimulé. Or, le problème, c'est que ces énergies renouvelables, dites renouvelables, en fait, elles reposent sur l'industrie minière, sur l'extraction minière. C'est leur spécificité. Par exemple, une éolienne, 3 mégawatts, 120 mètres de haut, vous allez avoir 3 tonnes d'aluminium, 2 tonnes de terres rares, les terres rares dont parlait Nike ce matin. 5 tonnes de cuivre presque, 1 200 tonnes de béton, etc. Donc il y a une ces énergies-là sont beaucoup plus intensives en métaux que les énergies thermiques, en contrepartie du fait qu'elles émettent moins de CO2. Mais donc l'extraction sur laquelle elles reposent, elle, émet beaucoup de CO2. Voilà. Donc ça, c'est l'autre élément de la triche dont je parle. Est-ce que tu veux intervenir, Mathieu? Je m'arrête. Est-ce que vous avez des questions à ce stade?
Salut. Bah, je me demandais en fait parce qu'on parle surtout en général pour les émissions du streaming vidéo en haute qualité, que c'était le truc le plus émetteur, etc. Et je me demandais les ordres de grandeur par rapport à l'IA et ce dont tu parles. Enfin, juste pour me représenter, c'est quoi les émissions du streaming vidéo par rapport à l'IA? Ou si ça a du sens, ouais.
Oui, si, ça a du sens. Non, moi, j'ai pas de chiffres là. L'IA, c'est supérieur parce que, en fait, ce qu'on a l'habitude de dire pour se représenter les choses, c'est que 1 heure de vidéo en ligne, c'est l'équivalent en volume de données de l'intégralité de Wikipédia en anglais. Voilà, et ça c'est intéressant parce que ça nous indique aussi, moi je vais y venir après, je voudrais qu'on parle de qu'est-ce que ça voudrait dire la sobriété numérique. Voilà, en 1 heure de vidéo, on a tout Wikipédia. C'est intéressant quand même pour penser les besoins essentiels qui pourraient être satisfaits, avec quelles ressources, etc. Et ben, ce que je dirais, c'est que tout usage de l'IA va être plus que la vidéo. Si c'est une IA générative du type de celle qui va nécessiter la consultation automatique de gigantesques volumes de données, c'est-à-dire l'équivalent de millions de disques durs, en fait, d'ordinateurs.
Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, je me posais la question, parce que par exemple, pour mon cas personnel, je suis dans un petit village, un trou du cul du monde. J'ai le cinéma, c'est hors de question, parce que de toute façon, je suis à RSA. Donc, si je veux voir un film, le problème mental, c'est de me dire, bon, je regarde un film ou je regarde une série, et donc je participe, tu vois, à la saloperie. C'est problématique.
Oui, on en a un peu parlé ce matin, c'est-à-dire que on est obligé de politiser ces questions et de les penser comme des problèmes collectifs et des problèmes sociaux majeurs. On a un ami, et d'ailleurs c'est un ami commun, qui dit, mais en fait, le numérique, c'est un fait social total, comme disent les anthropologues, comme dit Marcel Mauss. Fait social total, ça veut dire qu'en vivant dans cette société, on ne peut pas y échapper. Et il dit, notre ami, le numérique, c'est un fait social total, c'est comme l'argent. C'est-à-dire que, oui, cette société est fondée sur l'argent, on ne peut pas échapper à l'argent. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le mettre à distance. Et donc, on est obligé de réfléchir de manière politique à ces choses-là. Et moi, je veux vraiment bien qu'après cette petite exposée, on parte là-dessus. Mais parlons un petit peu des métaux. Parce que finalement, il n'y a rien de plus éloigné de l'idée de l'intelligence artificielle que l'idée des métaux, l'idée des mines. Et vraiment, dans l'imaginaire, tout est fait pour éloigner ces dimensions. Et en fait, le problème du numérique aujourd'hui, c'est que c'est un des secteurs qui est le plus responsable de la ruée minière dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que dans ce monde, on est en train. Les grandes entreprises sont en train d'ouvrir partout des frontières extractives. Ce qu'on appelle des frontières extractives, c'est-à-dire des zones finalement où le capitalisme n'était pas allé jusque-là, où on n'avait pas déforesté, où on n'avait pas encore expulsé les populations autochtones, ou alors pas depuis longtemps, peut-être parfois. Et là, il y a une prédation qui s'est accélérée ces dernières années. En gros, toutes les grandes puissances sont en concurrence pour leur industrialisation. Ils veulent tous à peu près les mêmes métaux, que ce soit les métaux pour alimenter l'industrie lourde, les industries de nouvelles technologies ou les énergies dites renouvelables, qui, comme j'ai dit, sont très gourmandes en métaux. Donc tout le monde rivalise pour faire ça. Il n'y a pas assez de ressources et les gisements assez riches sont rares. Et donc c'est la ruée tous azimuts, que ce soit dans les vieux bassins miniers, par exemple en Europe ou aux États-Unis, ou que ce soit dans des zones non exploitées qui n'étaient pas des bassins miniers précédemment. Et donc, vous avez sans doute à l'idée ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire oui, bah, les éoliennes, le photovoltaïque, ça demande beaucoup de métaux. les batteries demandent beaucoup de métaux. Mais pourquoi on a ça dans la tête? Parce que c'est quelque chose qui est souvent dit et souvent représenté. Et c'est quand même pas un hasard. Moi, j'ai écrit un bouquin et je montre comment cette image a été mise en avant par l'industrie minière pour redorer son image et dire, voilà, finalement, l'industrie minière, on en a besoin pour sauver la planète du réchauffement climatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas représenté de la même manière, c'est les besoins en métaux du numérique, et donc les mêmes que ceux de l'intelligence artificielle, en fait. Là, il n'y a pas des rapports qui sortent et qui nous montrent des belles infographies où on voit que, en fait, si on veut déployer la 5G partout, il va falloir augmenter la consommation de palladium, par exemple, de 3 fois la production mondiale. Il va falloir augmenter la production de beryllium par 100, etc. Alors que les données qui existent montrent que c'est dans les mêmes échelles, en fait. C'est-à-dire que la ruée minière, elle est vraiment suscitée pour une grande part par l'industrie du numérique. Alors pourquoi? Comme j'ai dit, parce que, par exemple, on a des data centers qui poussent comme des champignons, qui sont gigantesques, dont on va changer les serveurs tous les 2-3 ans. Ça fait déjà pas mal de métaux. Et puis, on a la production en masse de tous les terminaux, donc de tous ces smartphones, etc. Avec plusieurs spécificités. Donc là, j'arrive au petit chapitre, les métaux de l'IA. C'est quoi les métaux de l'IA? En fait, c'est les métaux de l'électronique. Quelles sont leurs spécificités? C'est les métaux qui vont servir à faire des micro-composants électroniques, des semi-conducteurs, des serveurs, etc. Et on entend souvent parler de certains d'entre eux, le lithium, le cobalt, parce qu'on s'en sert aussi pour les batteries des véhicules électriques. On entend parler du tantal, pour les condensateurs des circuits imprimés, parce que le tantal est extrait majoritairement en RDC, en République démocratique du Congo. Donc, en fait, la situation de violence là-bas est tellement terrible qu'elle est connue, qu'elle a été dénoncée depuis des années. Mais pour produire toutes ces machines que je viens de citer, en fait, il faut plus de 50 métaux, métalloïdes et autres éléments du tableau de Mendeleïev. Donc, on va dire métaux, hein, pour faire en gros. Et en fait, s'il en faut tellement en variété, c'est parce que la miniaturisation et ces puissances de calcul dont j'ai parlé au début, ils sont directement liés à l'utilisation de métaux en très très petite quantité, en alliage et en combinaison variée pour avoir des performances toujours plus intéressantes, toujours améliorées. Par exemple, dans les semi-conducteurs, vous savez qu'on utilise du silicium, et en fait, pour rendre le silicium plus conducteur, on va utiliser des dopants, par exemple du phosphore ou du bore ou de l'arsenic ou de l'antimoine ou de l'indium ou du gallium. Et puis, dans les transistors qui doivent opérer à très haute fréquence, comme avec la 5G ou le Bluetooth ou le Wi-Fi, on va remplacer carrément le silicium par du germanium. Voilà, et donc finalement, cette utilisation très spécifique des métaux, qui est vraiment ce sur quoi est fondée les nouvelles technologies, ce sur quoi elles sont fondées, elles aboutissent à la situation où, dans une micro-puce qui fait la taille d'un ongle, on va avoir, pour ceux que j'ai repérés, hein, du silicium, du germanium, de l'argent, de l'or, du tantal, de l'étain, du cuivre, de l'aluminium, du beryllium, de l'arsenure de gallium, du cadmium, de l'indium, de l'antimoine, du sélénium. Voilà, bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais en gros, il y a tout ça. Alors, il y a deux spécificités à ces éléments. L'une est assez évidente, c'est qu'en fait, arsenic, par exemple, antimoine, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est des métaux toxiques. C'est des métaux qui posent problème, que ce soit au niveau de leur extraction ou au niveau de leur circulation dans la chaîne industrielle. Le type de pollution qu'ils vont émettre, le type de déchets qu'ils vont créer. L'arsenic, c'est un bon exemple, parce que ce n'est pas du tout connu que, en fait, l'arsenic, c'est un élément complètement indispensable de la chaîne de production de l'électronique. L'arsenic, c'est vraiment un métal de l'IA, par exemple. pour faire plein de puces et combiner toutes ces puces électroniques, il faut pas mal d'arsenic, qui est donc un poison notoire. Et à tel point qu'en 2007, l'Union européenne voulait interdire l'arsenic dans l'industrie en général. Et qui s'est battu contre ? Eh ben, c'est le lobby des microconducteurs. Ils ont expliqué pourquoi. Ils ont dit, ils ont gagné d'ailleurs, ils ont obtenu que ça ne soit pas interdit. Donc ce métal qui pourtant cause donc des cancers de la peau, du poumon, des poumons, de la vessie, plein de maladies neurologiques. Hein, c'est un des poisons les plus connus en fait. Et l'industrie européenne des semi-conducteurs écrit, non mais l'arsenic est l'une des briques fondamentales de tous les appareils contenant des semi-conducteurs. Il joue un rôle critique dans les circuits intégrés très miniaturisés comme les microprocesseurs, les dispositifs mémoire, les applications réseau. Et il n'existe pas d'alternative à l'arsenic dans ce domaine. Bon, après, ils disent ça, mais bon, c'est pas... Et ça, c'est une des spécificités. Alors, je pourrais parler du beryllium ou d'autres métaux aussi toxiques. Et la deuxième spécificité, c'est que, en fait, ces métaux, ils ne sont pas recyclables. Contrairement, alors par exemple, dans le BTP, dans le bâtiment de travaux publics, ou dans l'aéronautique, ou dans l'aérospatiale, on utilise des volumes de métaux qui sont supérieurs. Parce que, bah, évidemment, un avion, ce n'est pas comme un téléphone, et même si on produit beaucoup de téléphones, ça n'équivaut pas à la consommation de la production d'avions, en termes de métaux utilisés. Mais, dans les secteurs où on utilise des métaux dans les très gros volumes, il y a un recyclage qui est possible, malgré la variété des alliages et tout. Par contre, en ce qui concerne l'électronique, il n'y a pas de recyclage possible, ou presque pas. Parce que, en fait, on utilise les éléments dans des quantités qui sont vraiment infimes. Pour vous donner une idée, bah, c'est l'industrie du microprocesseur qui nous apprend que dans un même smartphone, on va retrouver de l'arsenic, mais à 160 endroits différents. Et comme l'arsenic, ça coûte rien du tout, on va pas s'amuser à l'enlever, à essayer de retirer chacun de ces éléments pour les repurifier. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et malheureusement, c'est comme ça aussi avec l'or, avec l'argent, avec les autres métaux, même ceux qui ont beaucoup de valeur, qui sont présents à des dizaines d'endroits différents du téléphone dans les différents circuits, qu'on va pas récupérer. Donc, en termes de récupération de métaux qui sont liés, par exemple, au smartphone, il y a de l'expérimentation. Mais en fait, le plus courant, c'est qu'on brûle les appareils électroniques dans des décharges artisanales pour récupérer ce qui peut l'être facilement, c'est-à-dire le cuivre ou l'étain. Et ça se fait, ça se fait en Cisjordanie, par exemple, à la frontière israélienne, en Israël. Il y a beaucoup plus de matériel informatique qu'en Palestine. Et il y a des camions qui viennent décharger ça à la frontière en Cisjordanie. Et il y a des pauvres de la Cisjordanie qui, eux, brûlent des tas de déchets pour en récupérer un petit peu de cuivre, par exemple. Et donc ça crée des pollutions catastrophiques qui rendent la vie des éleveurs, des éleveuses impossible autour. Parce que l'air est très, très pollué. Voilà, et donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect évidemment minier, j'en ai pas parlé, mais prenons par exemple l'arsenic. Moi, en 2023, un des reportages que j'ai fait, c'était d'aller enquêter sur l'extraction du cobalt au Maroc. Au début, j'avais été interpellée par des histoires de batteries, Renault et BMW qui disent: on a souscrit des contrats avec une entreprise minière marocaine qui fait du cobalt responsable. La Managem, entreprise appartenant à la famille royale du Maroc. Et donc, moi, je suis allée au Maroc sur cette mine, parce qu'elle est connue, c'est la mine de Bouazer, il n'y a qu'une seule mine de cobalt au Maroc. Et là, en fait, le gisement, qu'est-ce que c'est ? C'est un gisement de cobalt arsenic. Donc, c'est doublement une mine qui peut être très, très utile pour le numérique, pour les batteries, le cobalt, et puis pour les circuits, les microprocesseurs, il y a l'arsenic. Et donc là, ben, une situation assez critique qui se retrouve dans bien d'autres sites miniers. Le fait que, ben, déjà, on est dans une zone semi-désertique, l'industrie minière consomme énormément d'eau. Une mine, pour le traitement du minerai, consomme autant d'eau qu'une grande ville. Or là, on est dans des zones où il n'y a pas d'eau. Quand on extrait, on pompe une nappe souterraine qui donc est rabattue. Donc elle est de plus en plus profonde. Et donc, les systèmes de captation de l'eau traditionnels ne fonctionnent plus. Donc l'agriculture de subsistance ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'accès à l'eau ou l'accès est devenu très, très difficile. Les arbres meurent. Là où je suis allée, bah oui, les palmiers dattiers meurent. Et puis, le problème, après, c'est l'extraction cobalt, arsenic. Donc, ça veut dire que, bah, c'est des, comme dans les mines aujourd'hui, en général, c'est des teneurs très, très basses.
Tu peux préciser le fait que, quand on parle d'extractivisme, il s'agit bien de produire les métaux sur place à partir de ce qu'on trouve dans la terre et non pas de l'imaginaire qu'on creuserait et qu'on trouverait les métaux qu'il s'agirait simplement de les trier de la terre qu'il y a autour, mais qui a un, c'est des usines qu'on implante à côté de la mine. Et peut-être tu peux expliquer un peu cette notion de la production de métaux et qui permet d'un peu mieux s'imaginer comment ça se fait qu'il y a besoin de tant d'eau, enfin qu'il y a tout ce bazar. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas du tout l'imaginaire du chercheur d'or qui trouve un peu d'or au milieu de trois cailloux. Quoi. C'est vraiment un process industriel de production des métaux.
Et oui, alors il y a plusieurs siècles, il y avait des métaux dits natifs. Natifs, ça veut dire qu'on en trouve sous une forme métallique pure. On voit de l'or, ah, donc ça c'est la rue vers l'or californienne ou australienne, etc. Mais ça, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, l'extraction minière, elle fonctionne sur la base de extraire des métaux parfois à l'échelle atomique, emprisonnés avec d'autres éléments dans des composés minéraux complexes, avec des teneurs très 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 basses. Par exemple, pour le cuivre. Aujourd'hui, la moyenne, bah, c'est souvent une mine de cuivre. Le gisement, donc là où c'est le plus riche et ce qui intéresse l'industriel, contient 0,4% de cuivre. Donc 99,6% de ce qui est sorti est du déchet. Et c'est du déchet redoutable, redoutablement toxique pour l'éternité. C'est pour ça que c'est très intéressant de se pencher sur les ravages de l'industrie minière. Qui structure notre société. Parce qu'en fait, les conséquences de ça, elles sont colossales. Donc, pour le cobalt, bah, c'est à peu près ce système. C'est-à-dire, là, c'est une mine souterraine. Il y a des galeries. On va extraire... on va enlever les stériles qui contiennent rien, mais qui peuvent contenir des métaux toxiques. On va extraire le minerai. Et ensuite, le minerai, comme dit Mathieu, il est traité sur place avec différents procédés qui font appel à des produits chimiques. Donc là, pour le cobalt et l'arsenic, on a l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique. Et comme il y a un peu d'or, mais ça, c'est secret, mais donc ils utilisent, comme dans toutes les mines d'or, du cyanure pour faire la première étape de l'hydrométallurgie. Et donc tout ça, ça laisse des quantités de déchets toxiques très, très importantes. En plus, là, avec du cobalt cancérigène et de l'arsenic super cancérigène. Et donc, tous ces déchets... cette mine, elle a été ouverte par les Français pendant l'occupation française. C'est une mine coloniale. Au début, ils étaient bazardés dans le bassin versant des oasis. Maintenant, ils sont stockés, mais d'une manière qui fait que c'est pas du tout étanche et que quand il pleut fort, comme c'est le cas quand il pleut dans le désert, il pleut très fort, tout est lessivé, tout part dans la même vallée. Et donc, le seul endroit où en fait... il y a une agriculture possible de manière traditionnelle, c'est précisément dans ces oasis où les déchets miniers pleins d'arsenic et d'autres choses se sont disséminés. Donc moi, là-bas, j'ai rencontré des gens qui cultivent dans les résidus miniers. J'ai fait des analyses de terre et d'eau. Voilà, c'est absolument catastrophique, la situation, du point de vue de la toxicité. Bon, là, c'est une petite digression. Mais voilà une situation minière, voilà une mine de l'IA. Après, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est une mine pour le numérique ou l'intelligence artificielle, parce que réellement, je me suis posé la question et je me suis dit, mais c'est quoi en fait, est-ce qu'il y a une extraction propre à cette chaîne de production-là, ben en fait, non, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. C'est-à-dire que toute mine est potentiellement une mine pour le numérique. Pourquoi je dis ça ? Ben, à cause de la variété des métaux dont j'ai parlé. Hein. Genre, plus de 50 métaux différents utilisés dans cette industrie, en fait, qui est fondée sur ça. Mais aussi à cause du fait que même une mine de charbon va être très, très utile pour l'industrie du numérique. D'une part, parce que l'industrie du numérique carbure au charbon. D'autre part, parce que dans toutes les mines, il y a des sous-produits qu'on appelle des coproduits. Et par exemple, tout à l'heure, je parlais du germanium. Et je disais, ben, le germanium prend le relais du silicium dans les semi-conducteurs. Et ben, en fait, le germanium, c'est un coproduit de la production de charbon et de lignite. Autre exemple qui va peut-être vous intéresser parce que ça se passe en France. Vous savez, il y a un grand projet de relance minière en France, en Allier, à Échassière, ouverture, projet d'ouvrir une mine de lithium à partir de 2028. Et donc ça, c'est à plusieurs égards une mine du numérique, puisque d'un côté, on a le lithium qui peut servir aux batteries des véhicules électriques comme aux batteries en général. Et puis, on a les coproduits de cette mine qui sont pour sûr le tantale, le niobium et l'étain. Donc vraiment trois éléments qui sont présents dans les électroniques, les semi-conducteurs. Et puis, en plus, le beryllium, le gisement des Chassières, c'est un des plus gros gisements de beryllium en France. Et le beryllium est à la fois un des métaux les plus toxiques qui se trouvent dans la chaîne industrielle aujourd'hui. Les spécialistes du beryllium disent que c'est plus toxique que l'amiante. Parce que, en fait, ça, les niveaux de poussière auxquels ça peut provoquer le cancer du poumon, la berylliose, ils sont infimes. Donc, c'est le genre de substance qui devrait carrément être interdite. Et la chaîne de l'électronique en est très, 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 très friande parce que c'est un métal qui a des propriétés à la fois de... Je ne sais pas très bien l'expliquer, mais... c'est un très bon conducteur et il empêche les circuits électroniques de monter en température. Donc, c'est très pratique pour éviter la surchauffe et continuer à miniaturiser. Voilà, c'est ce genre de métaux. Donc ça, c'est un petit aperçu pour les mines de l'IA, les métaux de l'IA. Et peut-être, quand on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est du coup de parler de l'eau. Parce que je ne sais pas si vous avez lu ou entendu dans la presse, on dit, à juste titre, quelque chose comme ChatGPT, ça veut dire une consommation d'eau très très importante. Et il y a un chiffre qui a été donné par une équipe de recherche, là encore, qui s'est dit, on va estimer les besoins en eau d'une série de questions-réponses avec ChatGPT. Une conversation de 20 prompts. Et ils ont dit, ça, avec ChatGPT, ça nécessite 1 demi-litre d'eau. Et comment ils ont fait ça ? Donc, 1 demi-litre d'eau, mais par conversation. Donc, c'est à multiplier par des centaines de millions d'utilisateurs. Donc, vous avez déjà un problème. C'est quoi cette histoire d'eau ? C'est l'eau qui est utilisée pour refroidir les data centers. Ils parlent de cette eau-là. Les refroidissements des data centers, donc des systèmes de climatisation, etc. Mais en fait, moi, ce que je viens de vous expliquer sur les mines, il faut le généraliser. Cette estimation-là, elle ne prend pas du tout en compte le reste de la chaîne. C'est toujours la même chose. Mais le reste de la chaîne, c'est quoi ? Bah, c'est l'extraction de ces 50 métaux. Et alors, à chaque fois, quand on a un problème, quand on a une mine, on a un problème d'eau. Et Chassière vont avoir un très très gros problème d'eau, parce que même si on est en Auvergne et non pas dans le désert marocain, en fait, les deux bassins versants qui sont concernés, ils sont en restriction d'eau. Les prélèvements sont plafonnés. Pour ouvrir cette mine, il faut magouiller avec les prélèvements d'eau. C'est ça qui est en train de se passer. Il n'y a pas assez d'eau pour ouvrir cette mine, alors qu'on est en Auvergne. Alors, je ne sais pas si vous imaginez dans le reste du monde. Moi, j'ai consulter des recherches qui disent en fait les deux tiers des sites miniers aujourd'hui sont dans des endroits où il n'y a pas assez d'eau. Donc, il faut intégrer cette eau à l'intelligence artificielle quand on y réfléchit. Et il faut évidemment aussi intégrer les volumes d'eau qui sont nécessaires à l'industrie de l'électronique dans son ensemble. Pensez à toutes les usines chinoises et malaisiennes et singapouriennes où on va fabriquer les composants électroniques et où on va fabriquer les puces, notamment à Taïwan. On connaît un peu plus aussi le problème des puces et de l'eau, puisqu'il y a eu cette campagne à Grenoble contre l'agrandissement de STMicro et l'installation de Soitec. Donc à Grenoble, ils ont calculé que le projet de ce double projet nécessiterait 336 litres d'eau par seconde, je crois que c'est ça, à Grenoble. Bon, à Taïwan, centre mondial des semi-conducteurs, on a l'entreprise TSMC, par exemple, qui consomme 159 000 mètres cubes d'eau par jour. Alors, voilà, ça, c'est des chiffres un peu comme ça, un peu fous, quoi. Mais peu importe, enfin, ces chiffres-là, le problème, c'est le fait que ça augmente. Cette consommation d'eau, elle a doublé depuis 2015. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est que tout double tous les 3-4 ans. Et c'est ça qu'on appelle exponentiel. Et c'est ça le problème. Donc, évidemment, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de production de l'électronique, il y a des conflits d'usage sur l'eau. Entre autres sur les pollutions de l'air, la santé des travailleurs ou des travailleuses. Mais c'est des conflits d'usage violents. En fait, les mines, quand on se penche dessus, il y a une grande partie des mines qui racontent des histoires de violence très, 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 très fortes, quoi, très, très marquantes. Cette visite que j'ai faite au Maroc, elle m'a vraiment marquée. Hein. C'est des situations humaines qui sont terribles. Et alors, voilà. Donc moi, je vais peut-être clore là cette partie de présentation, qui est un peu terrifiante, je reconnais. Mais voilà, ce que je veux dire par là, quand je vous présente ça, c'est pour moi un préalable à la discussion sur les usages. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans le meilleur des cas, la critique de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut la rendre plus inclusive. Et c'est vrai que c'est un énorme problème, puisqu'en fait, les données qui ont servi à l'alimenter, c'est des données volées. Vous avez fait un blog un jour, l'ensemble de votre blog se retrouve à alimenter les systèmes d'intelligence artificielle. C'est du vol. Et c'est, pour l'image, c'est la même chose, c'est du vol. Les boîtes aspirent le web. Donc c'est un très bel exemple d'accumulation primitive. Marx, Rosa Luxembourg, ils parlent du vol primitif. Là, on y est, c'est très bien. Il y a un cycle d'accumulation, un nouveau cycle d'accumulation qui s'ouvre. On parle d'inclusivité et aussi à juste titre, puisque le web qui est aspiré, les données qui sont aspirées, elles sont le reflet de la société, donc elles sont sexistes, elles sont racistes, elles sont classistes. Mais en fait, le problème, c'est que si on regarde ce que ça signifie matériellement en termes de réchauffement climatique, en termes d'accaparement de l'eau, en termes d'accaparement de ressources, en termes de puissance coloniale, de violence coloniale, si on regarde ce que ça coûte en ça, l'intelligence artificielle, alors c'est juste pas viable. Avant même de discuter des outils que ça peut procurer à certaines personnes en termes de gains de puissance, etc. Et c'est pour moi, c'est là-dessus que doit porter la réflexion. Et c'est drôle parce que les gens qui travaillent là-dessus en ont conscience. Par exemple, j'ai interviewé une chercheuse qui travaille sur l'inclusivité des systèmes de traitement automatique du langage. Et elle m'a dit, à la fin de l'interview, elle m'a dit, nous, on est en train de faire mumuse avec nos systèmes de traitement automatique du langage, mais dans quelques années, on le sait bien, la question, ce sera, est-ce qu'on fait fonctionner un système comme ça ou est-ce qu'on fait fonctionner un scanner dans un hôpital ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, il y a 2 ans, moi, j'ai reçu un mot sur mon mail qui disait il risque d'avoir des coupures de courant cet hiver. Et donc, dans mon cas, par exemple, l'école où va votre fille, donc l'école va fermer s'il y a des coupures de courant parce qu'on n'est pas en zone prioritaire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système extrêmement fragile où il n'y a même plus assez d'eau pour faire fonctionner correctement les centrales nucléaires à brève échéance. Ça va être très, très compliqué. Et en même temps, on a là une sorte d'hémorragie de consommation électrique. Donc, une situation extrêmement conflictuelle. Voilà, donc c'est pour ça que... C'est pour ça que moi, je compare l'intelligence artificielle à un projet industriel qui arriverait là, comme ça, parfait accompli, et qui consisterait à se déplacer en avion tout le temps, partout. Genre, oui, on a ce nouveau truc, et c'est très pratique, il va nous permettre d'aller en avion des tanneries aux lentillères. Ça va être vraiment bien. Après, la question, c'est est-ce que c'est inclusif? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait juste des boomers ou des blancs cisgenres qui puissent aller prendre ces avions pour se déplacer très rapidement. Mais en fait, avant de se poser la question de savoir si ces avions peuvent permettre à des enfants déscolarisés des montagnes d'aller à l'école, il faut se dire que ce système-là, en 2023, c'est juste pas possible. Il n'y a pas les ressources, en fait. Et s'il y a les ressources, mais c'est au détriment de populations entières. C'est pas viable, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense que le débat doit être complètement déplacé. Voilà, ben merci.
Alors, est-ce qu'il y a des réactions, interventions, questions ?
Oui, du coup, moi, je me posais une question depuis un petit moment. C'est en fait, justement, par rapport à ce lien intrinsèque entre technologie, toute la technologie, numérique, etc., et le colonialisme, le néocolonialisme, etc. Et je me demandais, en fait, si quelque part, le numérique, c'est pas un des plus gros enjeux du colonialisme contemporain.
Alors, c'est toujours difficile de dire le plus, enfin, parce qu'on va vouloir avoir midi à sa porte. C'est vrai que moi qui regarde les relations internationales à l'aune des concurrences, des compétitions pour l'accès au gisement, moi je vais dire oui, forcément, parce que je ne vois que ça en fait. Je ne vois que un renforcement de la dette coloniale par les grandes puissances. Enfin, tout accroît notre dette en fait, en permanence. La dette coloniale et la dette écologique, qui sont en fait évidemment complètement liées, parce que cette chaîne de production, elle est extrêmement gourmande. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, elle cumule la voracité de l'ensemble du système industriel. C'est ça la spécificité du numérique aussi, c'est qu'elle cumule les besoins de l'extraction minière, les besoins de l'extraction pétrolière et du charbon, et puis les besoins de la chimie lourde, et puis les besoins de la chimie fine, et puis en plus, à tout ça, elle va rajouter toute une strate de production qui est elle-même énergivore et très très accaparante, prédatrice, quoi, qui est par exemple tout ce qui concerne les data centers. Donc forcément, c'est... ce qui est un des trucs qui a le plus d'impact. Et ceux qui sont bien placés pour en parler, c'est les membres de l'association qui s'appelle Génération Lumière, qui sont à Lyon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai rencontré l'un d'entre eux récemment, c'est David Meanda Kitoko. Lui, il est politiste et il est aussi réfugié du Sud Kivu, République démocratique du Congo. Il fait partie de cette association Génération Lumière à Lyon. Et eux et elles, ils dénoncent les conséquences néocoloniales et en termes de conflits de l'extraction du cuivre, du cobalt et du tantal en République démocratique du Congo. Et du coup, la guerre qui fait rage là-bas depuis plus de 2 décennies. Et d'ailleurs, ils organisent une marche contre l'extractivisme qui commence le 22 juin, qui part de Lyon et qui va au Parlement européen. à Strasbourg et pour dénoncer la nouvelle loi sur les matières premières, la nouvelle loi européenne sur les métaux critiques qui justifie en fait les nouvelles politiques d'accaparement de ressources pour les besoins de l'industrie européenne, que ce soit pour la transition ou pour tout le reste, et notamment pour le numérique. Et dans cet asso, ils ont l'intelligence d'essayer de déjouer ce que le pouvoir est en train de faire. Le pouvoir essaye de renvoyer dos à dos les gens qui luttent contre les mines en France ou en Europe et les gens qui luttent contre les mines ailleurs, en disant « Ah, vous voulez pas de la mine à Échassières, mais donc on fait des mines en Afrique à cause de vous ?» Donc leur marche passe par Échassières. On voit bien que tout le monde devrait lutter contre les projets miniers aujourd'hui, parce que tant qu'il n'y a pas un arbitrage clair sur les ressources, c'est un gouffre. On alimente des gouffres, en fait.
Et une des manières dont le débat va vivre publiquement autour de l'IA dans ces prochaines années, ça va être dans ses impacts sur le monde du travail, avec un certain nombre de salariés qui vont soit perdre leur boulot, soit avoir leur boulot profondément transformé. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce que ça commence à être abordé par le monde syndical? Comment est-ce que ces questions-là elles commencent à arriver? Est-ce que il y a des échanges autour de ça et de quelle teneur, quoi?
Effectivement, la transformation est assez violente, ce qui est logique puisque la finalité de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser les activités humaines. Enfin, c'est le but. Et si c'est si ardemment porté par les industries en général et intégré aussi vite par toutes les industries, quel que soit le secteur, c'est parce que ça permet de supprimer des emplois. C'est la finalité, c'est la raison d'être de ce truc. Enfin, il y a à la fois cette finalité qui est classique dans le capitalisme industriel, hein, qui est fondée sur cette automatisation. Et il y a en même temps une mystique, il y a une dimension religieuse à l'intelligence artificielle aussi. Le fait d'avoir une source de... une pitié, en fait, une sorte d'oracle qui serait capable de donner, qui serait une divinité. C'est la divinité technologique. Donc il y a les deux. Il y a une dimension très cynique et il y a une dimension religieuse. Et donc, il y a cette violence que, dans mon secteur, par exemple, au niveau de la presse, on voit déjà apparaître, puisqu'il y a des entreprises entières qui sont des entreprises, par exemple, d'employés qui fabriquent les dépêches, les agences de presse, qui sont licenciées, mais là, par vague. Il y a des plans sociaux en France qui a été lancé il y a quelques temps. Et puis, des rédactions qui commencent à utiliser ChatGPT pour remplacer le secrétariat de rédaction. Au lieu d'envoyer l'article au secrétaire de rédaction, qui va corriger les fautes, écrire le chapeau, peut-être compléter l'article s'il y a des manques et tout, et bien là, ChatGPT peut faire ça d'une certaine manière, en rajoutant pas les mêmes informations, en mettant des titres et des chapeaux très convenus qui sont le reflet de l'Internet, etc. etc. Donc ça se fait déjà. Hein, et donc par rapport à ça, les syndicats sont en grande difficulté. Moi, j'ai pas une vision d'ensemble. Ce que je peux dire, c'est que j'étais invitée l'hiver dernier à une rencontre avec Sud, qui m'ont demandé d'intervenir, comme d'autres personnes, sur l'intelligence artificielle pour se positionner et pour avoir des arguments. Et que ce qui ressortait, en fait, dans l'ensemble, c'est que face à ce qui est en train de se passer, il y a un problème langagier. Ça a été beaucoup dit. C'est pas moi qui dis ça. C'est les travailleurs et les travailleuses qui disent on se fait avoir au niveau du langage par ce truc-là. Et moi, je leur
conseille. Tu peux expliciter le problème langagier, c'est quoi?
Non, mais c'est peut-être pas une bonne piste. Enfin, y a un côté, ils ont du mal, on a tous du mal à expliciter, à se rendre compte de ce que c'est, de ce qu'on a en face, quoi. À le nommer, on a toujours les mots du pouvoir, en fait. Plus concrètement, moi, ce que je pense, c'est que stratégiquement, dire. L'intelligence artificielle est incompatible avec l'accord de Paris, donc l'accord de 2015 qui dit que chaque secteur doit baisser les émissions carbone de 40% d'ici à 2030, je crois que c'est ça. c'est incompatible, c'est juste impossible. Et que donc, sur cette base-là, on pourrait contester les plans sociaux. Et pour ça, il faut de la documentation. Donc, on est obligé de penser ça dans un mouvement d'ensemble. Par exemple, avec des chercheuses, des chercheurs en informatique, des ingénieurs aussi, des gens du monde de la recherche qui se mettent au service de ces luttes sociales.
Bonjour. Et du coup, qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre tout ça de manière active parce que finalement, on parle, mais l'évolution s'arrêtera jamais. Moi, je fais du graphisme depuis 15 ans. J'ai commencé, on faisait des étourages à la plume, machin. Et maintenant, je trouve pas de boulot. Et le logiciel, l'IA fait du traitement de texte, fait du logo, fait du visuel pur et dur. En 6 mois, il y a eu 30 ans d'évolution, l'équivalent de 30 ans d'évolution, mais rien qu'en 6 mois. Je sais pas. Qu'est-ce qui. Il n'y a pas d'alternative dans tous les cas, vu que ça ne s'arrêtera pas. Mais je sais pas. Quelles sont les dynamiques qu'on peut. Enfin, je suis en train de. Je vais faire de la charpente. Et voilà. Voilà, quelles sont les dynamiques concrètes qui peuvent permettre, pas de contrecarrer ça, mais de créer une dynamique contraire, je sais pas.
Ah, bon, j'adore cette discussion. j'ai l'impression qu'il y a des goulets d'étranglement dans cette industrie du numérique à plusieurs endroits. L'un de ces endroits, c'est le secteur minier. En fait, le capitalisme a vraiment besoin des mines et se retrouve vraiment en difficulté si ces chaînes-là ne fonctionnent pas, quoi. Donc la contestation du régime minier est très importante. Et aussi, il y a vraiment des fortes contestations des data centers. Parce qu'à chaque fois, bah oui, c'est l'équivalent consommation en électricité d'une ville qui s'installe à côté avec des stockages d'hydrocarbures comme redondance, comme j'ai expliqué, et tout ça, plus la consommation d'eau. Donc, dans pas mal de pays, il y a des grosses mobilisations. En Espagne, Tu nubes seca mi río, ton nuage assèche ma rivière, c'est le nom d'un mouvement contre les data centers en Espagne. Il y a eu des victoires là-dessus, quand même, importantes et tout. Donc là, c'est des luttes genre socio-environnementales qui peuvent être menées et qui peuvent être gagnées. Ça, c'est important. Et puis, moi, je pense qu'il faut toujours associer les luttes adverses, c'est-à-dire on essaye d'interrompre le cours des choses, parce que là, le premier devoir, peut-être, à mon avis, avant même d'essayer de limiter ces usages, c'est d'essayer d'arrêter l'hémorragie, quoi. Non, ce projet industriel-là, en fait... On le boycotte, on n'y va pas et on essaye, là où on est, de tirer les leviers. Mais il y a aussi le volet programmatique. C'est-à-dire que le problème de ce monde, c'est qu'il y a toujours des industries surpuissantes qui vont proposer des projets de société clés en main aux élites. Et les industries du numérique sont toujours les mieux placées pour le faire. Elles ont toujours leurs projets de société clés en main, quoi. Et nous, les mouvements sociaux, on est tellement en réaction et parfois en conflit interne qu'on n'arrive pas à se projeter. Et là, sur la sobriété numérique, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que pour l'instant, c'est le monde des affaires qui est en train d'imposer sa propre version de la sobriété numérique. Et on voit que ça ne va pas nous amener très très loin par rapport à tous les enjeux que j'ai listés là. Du coup, c'est à nous de le faire. Et donc pour ça, eh ben, y a des assos qui ont accepté de commencer à mener un travail. Par exemple, le MIR... La Maison pour une informatique plus responsable, le 4 octobre à Paris, lance un programme de réflexion collaborative avec pas mal de gens de l'informatique sur, le numérique sobre, le numérique low-tech, à quoi ça pourrait correspondre. Si on veut parler de ça à un parti, par exemple, je ne sais pas, si on veut voir les filles ou les verts et leur dire, bon, bah, en fait, la sobriété numérique, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met en avant, quoi? Est-ce que c'est la limitation de la vidéo en ligne? Est-ce que c'est on arrête, on interdit tout un pan de la publicité qui, par exemple, représente presque un tiers du trafic des data centers, donc qui est un énorme problème en soi et qui est complètement inutile. Enfin, voilà, proposition ambitieuse, quoi. Et ça pourrait être dans tous les centres où il y a un peu des universités, du monde de la recherche, par exemple, ça pourrait être mené là où il y a des facs, des athécopoles, des ateliers d'écologie politique, où les gens pourraient se réunir pour discuter de ça et se faire des programmes, quoi. Lors d'une rencontre sur le numérique justement et le problème des mines où j'étais il n'y a pas longtemps, il y a un informaticien qui disait pour arrêter ça, je pense qu'un truc très important c'est de le ringardiser. Et je pense qu'il a raison, qu'il y a un côté que cette société, malgré tout, toute son apparence rationnelle est très irrationnelle, on le voit bien puisque rien ne résiste à une addition. Dans les projets de société qui nous sont imposés. Et donc, ben, ça fonctionne sur la croyance. Et s'il y a toute une génération qui, peu à peu, arrive à créer un imaginaire qui est complètement adverse, hostile à l'intelligence artificielle, à ce genre de monde, ben, ça crée à la fois de la désertion, mais ça crée d'autres choses, quoi. Et ça peut aller assez vite.
J'ai loupé un tout petit bout de la discussion, peut-être si tu l'as dit, je m'excuse, mais et je suis un peu embêté de désaxer du champ des luttes. Mais j'ai une question et je n'ai pas envie de repartir avec. C'est il n'y a aucune forme d'auto-limitation en termes de ressources qui se profilerait à des métaux qui ne seraient pas assez abondants ou enfin, j'ai quand même l'impression que qui serait trop rare quoi, ou qu'on n'arriverait plus à trouver. Ou alors à un moment où aller le chercher, ça deviendra quand même trop conséquent, trop voilà. Et c'est pas mon principal espoir, mais je sais pas, j'ai cette question là en toile de fond et j'arrive pas complètement à le mettre de côté.
C'est une très bonne question. Moi je dis non. Il y a absolument rien à attendre de la pénurie. La pénurie ne peut pas être notre Deus ex machina. Ça c'est une des leçons que l'écologie politique, à mon sens, doit retenir des contestations précédentes de la société du pétrole. En fait, moi, je me souviens d'Yves Cochet qui disait « Oui, la société va être obligée de changer parce que, de toute façon, dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. » Mais en fait, ce n'était pas vrai, quoi. C'est-à-dire que le pic, il a été sans cesse repoussé et que le mécanisme, il y a des mécanismes économiques qui permettent de faire que les sables bitumineux, ben, c'est rentable. Malgré tout, bien qu'on pensait que c'était après le pic. Donc, pour les métaux...
Juste, on pourrait le dire autrement. C'était vrai. Et le changement de la société qui a eu lieu, c'est d'aller chercher plus profond. C'est ça, le changement. Et pour les mines, ça peut être pareil. C'est qu'on peut avoir des changements qui sont de faire plus de guerre, de mettre plus sous tension certaines zones pour aller chercher les ressources nécessaires, quoi.
Mais c'est déjà le cas parce que l'idée d'exploiter des mines d'or avec un gramme d'or par tonne de roche concassée, broyée, traitée au cyanure, ça paraît complètement fou. Hein. Du coup, et en plus, moi dans mon bouquin sur l'extractivisme, j'explique que l'histoire du capitalisme, c'est précisément l'histoire d'une désinhibition de l'extraction minière. cette désinhibition, en fait, n'a jamais cessé et qu'on est en plein dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en France, on est en train de vivre une déréglementation spectaculaire de l'activité minière. On vient d'avoir la loi de simplification qui divise par deux les délais d'obtention d'un PER, d'un permis de recherche minière. Il y a la suppression des débats de la Commission nationale du débat public sur les gros projets miniers de plus d'un milliard, etc. Enfin, on est en train de vivre ça. Et même l'idée de l'extraction dans les fonds marins, qui en fait renvoie à un certain illimité. Donc non, la pénurie ne peut pas être notre allié. En revanche, stratégiquement, la question de l'eau, c'est vraiment un problème immédiat. C'est un problème compréhensible. Et les victoires sur le front de l'industrie minière, en tout cas, elles ont été obtenues autour de cette question consensuelle. Par exemple, en 2017, le Salvador interdit toute extraction minière sur son sol à cause du problème de la pollution de l'eau et de la surconsommation. Et ça, il semble que pour lutter contre l'industrie du numérique, dans toute sa démesure, dans ce vers quoi elle nous emmène, y a clairement cette question de l'eau à mettre en avant, comme ils l'ont fait à Grenoble, à juste titre, et en association avec le reste des luttes, qui, elles aussi, luttent contre l'accaparement de l'eau et la pollution de l'eau, quoi. Enfin, c'est vraiment l'eau contre la poursuite du capitalisme, quelque part.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? On va passer à la publicité.
C'est pas de la pub, mais pendant toute la discussion, j'ai eu en tête ce bouquin de photos que je vous invite à, que je vais laisser pour consultation là, et puis après, je pense que je le mettrai dans la bibliothèque. Alors, c'est un reportage photographique de Salgado, qui est un grand photographe du 20e et 21e siècle. Et ça ressemble très peu à ce que doit pouvoir ressembler une mine actuellement, mais c'est enfin en termes de matérialité de ce que c'est l'extraction minière, c'est une illustration assez fabuleuse à mon sens, parce qu'elle est belle, mais elle montre aussi toute la misère, l'exploitation et enfin vraiment le côté vraiment absolument dégueulasse de l'exploitation minière. Et je le laisse là en consultation si ça intéresse des gens de passer un peu à des photos.
Par rapport à cette question sur qu'est-ce qu'on peut faire, il y a une chose que je veux bien mettre sur la table qui me paraît importante. Ce matin, on a parlé des usages contraints du smartphone, évidemment. Enfin, on n'est pas du tout égaux ou égal là-dessus, c'est clair. Mais moi, je pense qu'une action est possible au niveau des parents. Les darons, les daronnes peuvent faire des choses sur la question de l'usage du numérique et du smartphone. En s'alliant, quoi. Je pense qu'il y a des... Il devrait être possible de dire, OK, nous, on est 4 familles, 10 familles, 20 familles, et on a décidé que le mieux pour les enfants, c'est qu'ils n'aient pas de smartphone avant 15 ans au moins. Donc, on repousse. Et ça peut faire beaucoup de bien aux enfants, aux adolescents, s'ils ne sont pas tout seuls et si c'est porté collectivement, quoi, évidemment. Et ça peut faire aussi beaucoup de bien par rapport à la baisse de la consommation, quoi. Parce que, en fait, c'est invraisemblable le fait qu'il y ait toute cette génération qui soit littéralement intoxiquée, quoi, par les smartphones, qui n'a rien demandé. Nous, on a bénéficié de l'attention des adultes. Eux, ils n'ont rien. Et en plus de ça, c'est des smartphones qui sont sans arrêt remplacés et tout ça, parce que quand on est au collège, on est trop jeune en fait pour avoir cette machine fragile, donc vol, brille et tout. Donc les parents peuvent faire quelque chose ensemble, en se fédérant pour repousser l'adoption des smartphones, déjà, peut-être maintenant.
Moi, c'était pour revenir sur ce que tu disais sur genre qu'est-ce qu'on peut faire et tout, et le fait qu'il n'y ait pas de solution. Enfin, moi, je suis d'accord qu'il n'y a pas de. Enfin, j'ai l'impression que c'est un Enfin, c'est ce que tu disais, Mathieu, c'est qu'en fait, de toute façon, là, il y a un bouleversement. Enfin, je veux dire, on va tomber là-dedans, c'est inévitable, quoi. J'ai l'impression, technologiquement et tout. Mais du coup, pardon, mais juste comme ça n'a pas été dit, je me dis, moi, j'ai l'impression qu'en fait, d'aussi se repolitiser là-dessus, en fait, c'est un truc qu'on ne fait pas tant. Enfin, je veux dire, là, tu disais Sud qui fait des. Qui se positionne. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc quand même que nous, à notre échelle, on peut faire de. ça existe de plus en plus, mais. Je sais pas, d'avoir une position politique d'ensemble sur l'intelligence artificielle, sur l'extraction. En fait, moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas tant. Enfin, ça existe dans des milieux précis, quoi. Mais en fait, juste parce que ça pose des questions d'emploi, de fou, enfin, de. Enfin, là, sur genre les 10 prochaines années, il va y avoir tellement de licenciements, tellement de restructurations, tellement de. Enfin, ça va devenir un fonds politique énorme, quoi. Et que du coup, moi, je dis pas qu'il y a. Enfin, c'est horrible comme espoir, enfin, j'ai pas eu envie que ça arrive, mais en tout cas, comme ligne, j'ai l'impression que ça, c'est la seule qui. Que je. Enfin. Je sais pas, avoir un discours commun là-dessus, quoi. Je sais pas.
Bah, merci à tout le monde. C'est l'idée, en tout cas, effectivement, de ce week-end, de s'équiper un peu ensemble, de mieux comprendre les situations, capter les différentes pistes qui se dessinent pour renforcer ces questionnements-là et se dire qu'on va trouver aussi ensemble, dans la période à venir, la manière de se positionner sur ça, par exemple, et de se mettre en mesure de réussir à intervenir dans les luttes qui arrivent sur ça, quoi. Et on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui avec nous, quoi. Mais. En tout cas, bah voilà, merci beaucoup Célia, merci à tout le monde. On va faire une petite pause et puis dans une dizaine de minutes, 15 minutes, on reprend avec un sujet beaucoup plus léger qui est la vidéosurveillance algorithmique. Là, voilà, ça va être fun. Avec la quadrature du net et Marne et Noémie. À tout à l'heure. Yes. Yeah.